CPO Radio.TV, la radio 100% dédiée au directeur achat. En partenariat avec le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio.TV. Vous êtes plus de 12 000 directeurs d'achat et dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, CPO Radio-TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Antoine Novelle-Bullière, responsable offre corporate du groupe EPSA. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Pascal Leroy aussi, managing director de CRM, spécialiste de l'aménagement et de l'équipement des espaces de travail. Bonjour Pascal.
Bonjour Alain.
Aujourd'hui, on reçoit un invité comme chaque semaine formidable, Étienne Colella, président de Pixit. Bonjour Étienne.
Hello.
Alors, vous êtes né en 1967, donc on peut le dire, diplômé d'HEC et de l'ESSEC. Et il paraît que grâce à votre service militaire, vous avez beaucoup voyagé, notamment à Singapour.
Ah bah oui, parce que moi à l'époque, on avait la chance de pouvoir faire notre coopération, ça s'appelait comme ça. Et moi, j'ai eu la chance de travailler pour des parfums sur la zone Asie du Sud-Est et les îles du Pacifique. Enfin, j'aurais dû faire ça. Mais ils ont trouvé que je faisais bien de l'informatique et ils m'ont laissé dans le bureau de Singapour pour réparer les ordinateurs.
Voilà. Singapour, ça vous a plu ?
Beaucoup.
Ouais, grand moment. Vous avez travaillé aussi pour IBM ? Vous avez fait quoi ?
Ah oui, bah j'ai appris la vente. J'ai appris, ça a été mon premier employeur. J'en ai un magnifique souvenir. Et j'ai vraiment appris ce qu'était la vente grand compte de projets complexes. C'est cette très belle entreprise.
Ouais, c'est une belle école de formation d'ailleurs. La vente IBM, c'était...
Ah oui, oui, c'était...
C'est toujours d'ailleurs maintenant.
Tout à fait.
Alors, vous avez aussi collaboré avec une entreprise, Bull, qui appartient maintenant, qui a rejoint d'autres cieux. À l'époque de Jean-Marie Descartes, Carpentrier et Thierry Breton, ça a été aussi Étienne Bonaventure.
Ah, magnifique. Et là, j'ai eu deux managers exceptionnels.
Descarpentrier, grand monsieur.
Voilà. Thierry Breton, et surtout, j'ai eu les deux en même temps. C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait Thierry Breton et Jean-Marie Descarpentrier. Et imaginer une réunion de management avec ces deux personnages, c'était probablement, je ne le reverrai jamais. Voilà.
Vous avez créé votre entreprise en Pixit donc en 2004. Vous avez toujours voulu créer une boîte, c'était le hasard ?
Non, pas du tout.
Passé à votre tête ?
Non, pas du tout. Moi, je n'étais pas du tout parti pour faire ça. Et puis après, pour travailler pour des grands groupes, je me suis rendu compte qu'assez vite, ben, je n'avais pas l'autonomie dont j'avais envie.
Oui.
Et puis on est en 2003-2004, la sphère Internet bouillonne. Il y a plein de projets partout. Et là, je décide de changer de trajectoire par une rencontre. Je pense que ça passe souvent par là. Et j'ai la chance de croiser à ce moment-là donc, trois actionnaires qui ont un projet et qui cherchent une personne qui peut monter ce projet très innovant. Et donc, 2004, je pars.
Et le métier de Pixit au départ et maintenant ?
Alors, c'est toujours le même métier. C'est-à-dire que l'idée, ça a été de digitaliser l'ensemble de la chaîne de recours à l'intérim en France au départ. Alors aujourd'hui, on a évolué, hein. Mais c'était vraiment d'être capable de rapprocher clients et fournisseurs autour de la digitalisation. Alors en 2004, on ne parle pas de digitalisation.
Non, c'était vraiment très
précurseur. On ne parle pas de SaaS, par exemple. Ouais. Hein, on ne parle pas de tout ça. Nous, on a fait de la signature électronique de contrat en 2005 en SaaS. Je peux vous raconter des anecdotes de rendez-vous avec des clients qui nous prenaient vraiment pour des fous furieux. Mais voilà, donc on s'est vraiment lancé là-dedans. 5 ans difficiles. La crise de 2009 qui nous tombe dessus. Le marché de l'intérim est le premier à tomber, bien sûr. Hein, moins 40% en un trimestre. Mais nous, on a posé les fondations techniques de notre plateforme, déjà en SaaS à l'époque. Hein. Ce n'est pas un mot qu'on utilisait. Mais... Et puis, en 2010, bah, finalement, quand la crise est probablement la plus profonde, les gens cherchent des solutions pour continuer à avoir de l'emploi temporaire qui à utiliser. Et d'un coup, les solutions en SaaS comme les nôtres apparaissent comme absolument magnifiques. Et
là, aujourd'hui, la PME, c'est autour de combien ? 30 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui,
ouais, pas loin, ouais, près de 180 personnes.
Et vous travaillez en France aussi à l'international ou uniquement franco-français ?
Non, 30% maintenant en Europe avec deux filiales nées de deux acquisitions d'ailleurs, au Royaume-Uni et en Hollande. Et
dans le capital de l'entreprise, il y a qui ? On
trouve... Un fonds, maintenant, un fonds français qui nous épaule depuis 4 ans. Et c'est grâce à eux qu'on part maintenant à l'international et le management.
Antoine, belle réussite en tout cas.
Hein. Oui, très belle réussite. J'ai une question. Vous offrez à vos clients, du coup, si j'ai bien compris, un outil pour mieux gérer leur recours au travail temporaire et pour mieux gérer leurs fournisseurs de travail temporaire. Est-ce que vous envisagez d'étendre votre offre de service à d'autres catégories d'achat ? Je pense, je ne sais pas, à la flotte automobile, voire au consulting ?
Non, pas du tout. Enfin... pas la flotte automobile, on veut vraiment rester sur la notion RH, emploi et emploi flexible majoritairement.
D'accord.
Parce que ce sont des formes d'achat très particulières. En particulier, le principe, c'est que normalement, dans un outil de procurement classique, j'ai 10 boîtes de conserve à 1 euro, j'attends une facture de 10 euros. Dans l'intérim, ça ne marche pas du tout comme ça. Parce que une fois que vous avez des missions, vous devez appliquer à ces missions des lois et des conventions de paye site par site. Donc il y a une complexité qui fait que vous ne rapprochez jamais Je suis pas trop technique, ça va?
Non, pour l'instant, tout va bien, bon. On comprend tout.
Vous ne rapprochez jamais une commande d'une facture. Donc, vous avez des systèmes qui sont intermédiaires et qui permettent de passer de la commande à la facture. Deuxième élément qui est très particulier pour les achats, c'est que les donneurs d'ordre sont souvent les RH. Donc, c'est un processus achat qui est maîtrisé au départ par les opérationnels de site, hein, par exemple, mais aussi beaucoup par les RH. Et donc, c'est une catégorie qui demande une très grande collaboration entre ces deux métiers que sont achat et ressources humaines.
Très bien. Vous avez compris, Antoine ?
J'ai tout. Je crois que j'ai compris.
Bon, très bien. On va vous inviter sur DRH Radio la prochaine fois.
Autre question. Au cœur de votre activité, il y a l'innovation. Est-ce qu'il y a des projets innovants en cours de développement chez vous dont vous pourriez nous parler ou des startups que vous suivez attentivement
Alors, oui, absolument. Alors, d'abord, nous, on est notre première innovation, c'est pour nos clients. Donc, on apporte d'abord des nouvelles fonctionnalités par rapport à notre marché. En ce moment, notre principal développement, c'est autour donc, de ce qu'on appelle le sourcing de candidats, c'est-à-dire comment vous trouvez les bons candidats par rapport aux besoins de l'entreprise. Vous avez vu quand même qu'en gros, en Europe du Nord, il n'y a plus de chômage aujourd'hui, et même en France, sur des catégories complexes.
Les cadres, par exemple.
Mais il y a plein de métiers qui sont en tension. Il y a plein de métiers où les entreprises n'ont pas les collaborateurs dont elles ont besoin. Et à l'inverse, pour les candidats, c'est de trouver les bonnes missions. Parce que souvent, ces missions mènent à des emplois durables, hein, ou pérennes. Donc nous, aujourd'hui, on investit beaucoup pour enrichir nos outils de solutions de sourcing. En fait, pour faire quoi ? Rapprocher entreprises et candidats, rapprocher l'offre et la demande, avoir donc des candidats qui trouvent plus vite les bonnes missions.
D'accord. Antoine ?
Et une dernière question sur la RSE, qui est aujourd'hui un enjeu majeur pour toutes les entreprises, ou qui devrait l'être. L'empreinte sociale et écologique des entreprises de la tech, elle est moins médiatisée que celle des grands groupes industriels où c'est plus facile à identifier. Est-ce que malgré cela, il y a chez vous des démarches, des engagements, des actions au niveau de la RSE ?
Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de processus industriel lourd, typiquement, hein, par rapport à d'autres secteurs. En revanche, on est des gros consommateurs d'électricité, quand même. Hein. Donc, là, pour le coup, on fait évoluer très, très régulièrement les architectures techniques pour avoir les matériels les plus petits et les moins consommateurs. Ça, c'est vraiment absolument indispensable. Je pense que le deuxième élément, il concerne tous les gens qui nous aident, tous ceux qui participent à la croissance de l'entreprise, pour faire que tous les jours, ils ont envie de continuer à venir avec nous, à grandir aussi pour eux, hein, à se développer et à nous aider à continuer notre aventure.
Pascal ?
Aujourd'hui, vous dirigez une société qui a pratiquement 200 collaborateurs, sans comité de direction véritable, si j'ai bien compris. Quel est votre secret quand ce que vous faites ?
Alors, la dictature de management.
C'est vrai que une des raisons pour lesquelles j'ai quitté les grands groupes, c'est que j'en avais un peu marre de la réunionnite. Hein. Alors après, c'est un commentaire personnel. Hein. Et donc, j'ai souhaité plutôt monter effectivement une culture d'entreprise où, quand on a un problème à traiter, on se voit à l'endroit où on se voit et on le traite. Voilà. Donc j'arrive peut-être à la limite de mon modèle là, parce que maintenant avec trois filiales,
oui, bon, ça commence à faire beaucoup.
Mais quand même, je veux surtout pas retomber dans une entreprise où il faut absolument avoir un comité de direction le lundi matin à 8h30, ou alors que cette décision, on peut la prendre à trois entre un café, une visioconf ou un train. Voilà.
Parfait. Aujourd'hui, on voit que dans votre offre, le digital arrive en complément de l'offre physique qu'on voit dans différentes agences. Est-ce que vous envisagez à un moment donné de faire évoluer votre modèle, rester dans le digital majoritairement, mais d'ouvrir des agences physiques en complément de ce que vous faites ?
En fait, nous, on fait que du digital. C'est-à-dire que nous, on n'est qu'un outil, on n'a aucune agence et on ne met à disposition aucun personnel. C'est-à-dire que nous, on relie clients et fournisseurs et candidats. Voilà, donc on est vraiment au cœur de la révolution de la digitalisation. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand on a lancé la société en 2004-2005, on ne parlait pas comme ça. C'est-à-dire qu'on était un outil de collaboration client-fournisseur. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un écosystème de partenaires, ouais. Hein, d'intégration de services au travers de services techniques et autres qui ont énormément évolué. Et on est vraiment au cœur de la digitalisation. On fait 100% et on ne fera que 100% de digitalisation.
Le métier de patron d'achat, Étienne, vous en pensez quoi ? Ce sont des gens bien déjà. Et deuxièmement, donc, comment ça va évoluer tout ça ?
Moi, je pense que la grande évolution des achats, c'est d'abord la RSE. Hein. Oui, c'est important. Cette préoccupation qui arrive. Et on a vu une très grande évolution des contrats là-dessus. Nous, on voit un élément qui est très important, c'est les données personnelles. Oui. Et donc ça, c'est un élément... les contrats qu'on faisait en 2005, il y avait une petite clause CNIL Aujourd'hui, les clauses liées au RGPD et autres sont extrêmement contraignantes. À titre personnel, je pense que c'est une très bonne chose. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement prégnant dans notre métier. Ensuite, je pense que le deuxième phénomène clé, c'est que la digitalisation perturbe tous les écosystèmes. Et je pense qu'on ne voit plus une direction déjà ça qui n'est pas extrêmement sensible au sujet, qui mène des projets innovants dans leur domaine.
Étienne, le plus beau métier du monde, c'est entrepreneur ou développeur de jeux vidéo ?
Ah, c'est celui que je n'ai pas pu faire. Voilà, mais je peux y jouer.
Et côté voyage, vous nous conseillez la Namibie, par exemple ?
Oui, la Namibie, qui est un très, très beau souvenir en pleine nature, en pleine liberté, surtout.
À quelle époque c'était de l'année ?
C'était en août.
En août. Ouais, il faisait bon, il n'y a pas trop de...
Il faisait plutôt assez chaud, mais surtout, on passe du désert à la mer, on se retrouve dans des safaris, on monte des dunes magnifiques.
Ouais, grand moment, quoi.
Grand moment.
Et là, dans l'avion, vous avez lu quoi ? Dernier livre lu ?
Alors, le dernier...
Pas acheté, lu vraiment. Hein.
Alors, celui dans lequel je suis toujours, c'est un livre qui s'appelle « Le livre des coïncidences ».
Ah oui.
Non, monsieur, donc j'espère que je ne vais pas complètement massacrer le nom, qui s'appelle le docteur Deepak Chopra, je crois.
Oui, voilà. Répétez.
Deepak Chopra. Et c'est passionnant parce qu'en gros, l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas de coïncidence.
D'accord.
C'est parce qu'on ne les voit pas, on pense que ce sont des coïncidences, mais en fait, si on se met à regarder autour de nous, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense.
Et enfin, pour terminer, est-ce que vous soutenez les causes caritatives ou humanitaires ?
Oui, nous, on est tous les ans, on emmène quasiment 80% de la boîte sur le parvis de la Défense avec Action contre la faim. Et on court, on marche, on fait de la Zumba, de tout ce qu'il faut, voilà, pour montrer notre engagement.
Merci Étienne, bravo pour cette magnifique aventure entrepreneuriale. Merci également vous Antoine et Pascal. Fin de ce numéro de CPO Radio.TV. Retrouvez toutes nos actualités sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
CPO Radio.TV vous a été présenté par Alain Marty.